7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 8h43, merci d'être avec nous ce matin, c'est toujours un plaisir d'animer ces matinales. Dans des minutes, la chronique de Ludovine de la Rochère, suivie de l'analyse par Nicolas Delange qui nous parlera des Gaulois. Mais tout de suite, la chronique de Jean-Luc Ganin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous recevons ici, comme tous les jeudis, Jean-Eudes Ganin. Jean-Eudes Ganin, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu et porte-parole du mouvement Chouan. Merci d'être avec nous ce matin. De quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la fin de l'ère Orban et que j'ai cru voir que vous aviez couvert cette date historique.
Absolument, effectivement, j'étais pendant 5 jours à Budapest pour couvrir, voilà, pour Ligne Droite, la fin de l'ère Orban, l'élection de Peter Maguire. D'ailleurs, il y a un reportage que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Ligne Droite, chers auditeurs. Jean-Luc Ganin, quelle leçon vous tirez finalement de cette défaite de Viktor Orban ?
Alors, petit rappel, hein, bref, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, Orban était donc le premier ministre hongrois depuis 2010. Il subit une terrible défaite électorale dimanche dernier. À l'origine, c'est quelqu'un qui est plutôt centriste et conservateur. Ça aurait été une sorte de Juppé ou de Fillon hongrois. Et entre 98 et 2002, où il a exercé son premier mandat, il n'avait pas spécialement défrayé la chronique. Simplement, entre 2002 et 2010, dans l'opposition, quoi qu'il soit resté conservateur, il s'est forgé des oppositions beaucoup plus radicales. Alors, était-il pour autant un adversaire de l'Union européenne, comme ceci a été écrit à tort et à travers ? Je ne crois pas. Pour être exact, il était membre au Parlement européen du PPE, hein, le Parti populaire européen, et ceci aux côtés des Républicains, par exemple, et de toutes les droites dites de gouvernement. Il n'en a été suspendu qu'en 2019 et il ne l'a quitté officiellement qu'en 2021. Voilà. À l'inverse des souverainistes français, Orban n'a jamais songé à quitter l'Union européenne, dont il savait qu'elle était un avantage pour la Hongrie, quoique le gel de milliards d'euros depuis 2023 par la Commission européenne avait fini par faire de son pays un contributeur net sans contrepartie. Une contribution d'ailleurs aggravée, il faut le rappeler, par une amende d'€1 million par jour pour non-respect du pacte migratoire de l'Union européenne, comme le rappelle Thibaut Gibelin dans l'entretien très intéressant que je vous invite à découvrir, qu'il a accordé à Braze Info aujourd'hui. Voilà, sur Braze Info, il y a un entretien assez complet sur l'Ukraine. Bon, alors voilà pour casser l'image un peu du populo-souverainiste accolé à Orban. Et puis, puisqu'on en est à casser certains clichés, rappelons que son opposant, dont la victoire a été saluée par tout le gratin européen et européiste, n'est pas en reste en termes d'entorse programmatique à la pensée dominante. Je peux citer en vrac, dans le programme de Tisza, le maintien des frontières fermées, l'interdiction des travailleurs non européens, le doublement des aides familiales et le refus d'envoyer des armes en Ukraine.
D'ailleurs, j'en profite pour ajouter, Jean-Luc Ganin, que Peter Maguire a déclaré dès hier, il ne se plierait pas aux exigences de l'Union européenne sur le pacte asile et migration, qu'au contraire, il renforcerait le contrôle aux frontières pour empêcher que les migrants rentrent en Hongrie.
Voilà. Et dans ces conditions, il y a fort à parier que les relations, pour lui aussi, finissent par se tendre avec la Commission européenne. Ça va être assez intéressant. Toujours est-il que Orban a perdu le soutien de son peuple pour des raisons sans doute profondes, telles que la corruption, le mauvais bilan économique lié notamment au bras de fer avec l'Union européenne, et surtout, vraisemblablement, sa campagne électorale basée sur des thématiques très internationales. C'est assez gaulliste, hein, d'ailleurs. L'Ukraine, l'Union européenne, etc. semblait assez déconnectée des préoccupations de la ménagère ou du travailleur hongrois. Alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a à droite que ceci crée une petite effervescence. Hier, dans une tribune publiée dans le JDD, journal du dimanche, Julien Rochdy voit ce remplacement d'un chef d'État anti-immigration, qualifié d'anti-Union européenne également, par un autre qui serait donc plus ouvertement pro-Union européenne, mais également anti-immigration. Il voit ça comme le signe annonciateur d'un divorce entre la droite et le populisme. Écrit à juste titre, les idées de droite n'ont à l'origine rien de populiste. Conservatrices ou réactionnaires, elles naissent dans le sillage de la Révolution, en réaction aux mouvements populaires et en défense des ordres anciens, souvent élitistes. Cela ne signifie pas que la droite, une fois au pouvoir, gouverne contre le peuple, mais elle fait volontiers sien le mot de Joseph II, empereur d'Autriche, « tout pour le peuple, mais rien par le peuple ». Défendre les traditions, les corps constitués, les lois, la religion, la nation, l'économie libre, c'est agir, selon elle, au bénéfice du peuple. Encore faut-il, pour y parvenir, se prémunir de ces élans souvent aussi bruyants que stériles, telle est sa doctrine. Bon, il y a beaucoup de vérité là-dedans, mais je vais nuancer un peu. Et il conclut que, après tout, puisque les élites deviennent progressivement sensibles aux thématiques identitaires, on le voit avec la princesse qui est en couple avec Jordan Bardella, on le voit avec Mélanie, on le voit avec ce nouveau premier ministre hongrois. Bref, eh bien, pour lui, l'idée sous-jacente, c'est que ce mariage étonnant des idées de la droite et du populisme peut ou va prendre fin, puisque pourrait advenir une Union européenne de droite patriote qui émergerait et serait un rempart idoine à l'Amérique et aux Russes, donc aux deux impérialismes qui enserrent l'Europe depuis longtemps. Alors, c'est une analyse audacieuse, mais à mon avis un peu hâtive. D'abord parce qu'en fait, à bien des égards, ce que personne ne dit, c'est que c'est l'opposant d'Orban qui était le plus populiste, puisque c'est lui qui promettait de doubler les aides pour une politique nataliste qui représentait pourtant déjà 5% du PIB. C'est lui qui promettait d'arrêter totalement l'immigration de travail, pourtant encadrée et nécessaire à l'industrie hongroise selon les partisans du Fidesz. Et donc, c'était lui le candidat anti-système avec des promesses peut-être difficiles
à
tenir.
Et même, j'ajoute, pardon, j'apporte un peu mon expertise à votre chronique, Jean-Yves Gana, mais d'une certaine façon, j'ajoute que Peter Maguire a lui-même fondé une sorte de parti attrape-tout, le TISA, qui a justement récupéré les voix des anciens socialistes, qui a récupéré en fait les voix de toute l'opposition à Viktor Orban, et tant dans la forme que dans l'électorat conquis, eh bien, Peter Maguire a vraiment eu une attitude justement profondément populiste, en cela qu'il n'avait pas de ligne idéologique, ce que lui reprochait d'ailleurs le Fidesz, mais qu'au contraire, il a formé une sorte d'agrégat anti-Orban pour essayer de répondre aux aspirations populaires hongroises.
Tout à fait. Et donc, dans cette séquence, c'est Orban qui a perdu parce que précisément, il incarnait le pouvoir rassurant, professionnel, installé, qui a fini par lasser, et notamment à cause de décisions prises pour le peuple, mais pas par le peuple. Voilà. Et puis, je nuance encore un peu cela parce que l'histoire française, elle est intrinsèquement liée aux classes moyennes, à un récit des petits contre les gros, utilisé déjà, d'ailleurs, rappelons-le, par nos rois contre les féodaux. Et puis, des guerres de Vendée aux premiers élus contre-révolutionnaires et catholiques sociaux, ce thème de la défense du plus faible, du petit contre le gros, des aspirations populaires, est tout de même lié à notre courant de pensée. Alors, non pas, et là-dessus, Rojdi a raison, non pas par adoration béate de la démocratie qui aurait toujours raison, ni du mythe gauchisant et rousseauiste du gentil peuple contre les vilaines élites, mais parce que le pouvoir bourgeois et centriste s'est toujours construit non seulement contre les intérêts nationaux, mais aussi civilisationnels. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif de rompre avec un discours populiste trop facile et anti-élite, ce n'est pas pour rejoindre les élites actuelles, mais on devrait au contraire proposer de nouvelles élites. Et l'illustration qu'on a avec la loi Yadane et le refus de la pétition, vous savez, la pétition contre la loi Yadane a été enterrée, et cette loi serait, paraît-il, défendue par l'UDR, les macronistes et même le RN, eh bien, voilà un risque majeur au RN. Son discours anti-élite était assez déficient, simpliste, et durant des années, il a déresponsabilisé peut-être le peuple français de ses erreurs et de ses manquements, et il rendait, paraît-il, difficile son accession au pouvoir. Mais voulant se départir de son populisme sulfureux, il se jette avec ce genre de position, donc en faveur de la loi Yadane, dans les bras d'un ordre bourgeois qui criminalise la liberté d'expression en prétendant le défendre, avec un cortège de lois et de dispositions qui n'ont comme seul effet que de promouvoir l'antiracisme et d'annihiler nos anticorps civilisationnels. Parce que l'immense paradoxe de la stratégie du sionisme à tout craint des droites européennes qui pensent par là obtenir un blanc-seing sur l'immigration et l'islam, c'est qu'elles se retrouvent en parallèle obligées de soutenir toutes les pseudo-luttes contre l'antisémitisme et donc de valider le discours antiraciste originel. Voilà. Conclusion, on a l'impression que les élites nous rejoignent dans notre combat. En réalité, ce n'est pas totalement le cas. Et je crois que la vocation de la droite, si elle est élitiste, c'est bien plutôt d'essayer de former une nouvelle élite politique et non pas de se réjouir que certaines pseudo-élites se rallient un autre discours sur l'islam et l'immigration, parce que ce n'est pas forcément pour les raisons que l'on croit.
Alors, je vais prendre pour répondre un petit peu à votre idée, Jean-Luc Gana, tout de même une interrogation que moi-même je peux avoir, qui est effectivement sur la présence des élites économiques. En l'occurrence, on voit que le Rassemblement National, on voit que même Reconquête fut un temps ont tenté de séduire eh bien des élites économiques, des milliardaires et autres. Qui eux-mêmes ne sont pas fondamentalement, radicalement opposés aux idées de droite, mais demandent une adaptation de ces idées à leur propre fin. On peut pas créer une élite économique, par exemple, du jour au lendemain. Si jamais on voulait, enfin, si jamais la droite identitaire voulait faire un Bernard Arnault, ça prendrait sans doute quelques décennies.
Et sans doute n'y arriverait-elle pas.
Oui.
Non, non. Qu'on soit bien d'accord pour clarifier mon propos. Je parle des élites politiques, du système médiatico-politique. Maintenant, il y a des élites économiques dans le pays qu'il faut essayer de convaincre quand elles sont de bonne volonté et patriotes. Et ma foi, on voit ces dernières années qu'il y en a un certain nombre qui aident à leur manière de manière assez conséquente. Hein. On dénonce souvent Bolloré, mais il y en a d'autres. Donc là-dessus, c'est évident. Hein. Mon idée n'est pas de réhabiliter un discours anti-élite ou de dire qu'on peut faire sans elle quand on est dans le jeu démocratique. L'idée est simplement de dire que voir des gens, des européistes convaincus se rallier peu à peu à nous ou voir des lobbies communautaires se rallier peu à peu à nous est un signe des temps qui est agréable parce que ça veut dire que nos idées progressent dans la population, mais ne veut pas dire que ces gens-là sont forcément nos alliés. Voilà, c'est pas du tout d'ailleurs ce que disait Julien Roche dit, hein, j'ai utilisé sa tribune en introduction de mon propos, mais je tiens à le dire parce que là, la loi Yadan est quand même l'illustration de cette espèce de fourvoiement de la droite française.
Oui, et puis qui finalement est une en fait, c'est une alliance de circonstances, mais la question c'est est-ce qu'on peut se permettre, il nous reste une minute, Jean-Luc Gana, ces alliances de circonstances tout de même dans le but de justement conquérir le pouvoir, à partir du moment où on a le pouvoir, on ne se compromet pas avec ces élites précédentes.
Alors, dans le système démocratique, il y a évidemment des alliances de circonstances, mais quand on se jette pieds et poings liés dans certaines alliances sans contrepartie, mais toujours est-il qu'il faut voilà, être pondéré et mesuré quand on noue un certain nombre d'alliances.
Merci Jean-Luc Gana d'avoir été avec nous ce matin pour cette chronique tout à fait intéressante qui pourrait d'ailleurs donner lieu à un entretien un jour, qui sait. Merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve la semaine prochaine.
Ligne droite.
Et nous retrouvons tout de suite Ludovine de la Rochère pour sa chronique hebdomadaire. Ludovine de la Rochère, bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille. On vous écoute.
Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, cher Alexandre et chers auditeurs de Radio Courtoisie, je voudrais vous parler du récit victimaire et imaginaire du progressisme. Car oui, ils ont beaucoup d'imagination. Alors en effet, avant-hier, mardi 14 avril, au cours de la séance des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale donc, la députée EELV Sandra Regol a interpellé Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec presque des trémolos dans la voix. Je cite « Le planning familial de Strasbourg a été couvert du tag « planning assassin » et ce n'est que l'une des six dernières attaques que le planning familial a subi ces cinq dernières années. En juin 2025, dans le Nord, Stop IVG était tagué sur le mur d'un planning familial. Terrifiant, en effet. On a la peine pour eux. On a de la peine pour eux. Alors vous noterez au passage que la vérité les gêne. Et la députée de poursuivre avec emphase. Partout en France, la même tendance glaçante se dessine. Les salariés ont peur et un climat d'insécurité plane sur les militants et les militantes comme sur les bénéficiaires du planning familial. Le travail de cette structure se trouve ainsi mis en péril. Et Sandra Regold d'ajouter. Un rapport du Forum parlementaire européen sur les droits sexuels et reproductifs révèle que la France est le deuxième pays d'Europe où les financements de campagnes anti-genre, anti-IVG, pro-thérapie de conversion, soi-disant, et j'en passe, dit-elle, sont les plus élevés.
Alors, les associations conservatrices françaises seraient donc plus riches que les associations progressistes. Bonne nouvelle pour vous.
Ce serait formidable. Alors, il faut d'abord préciser que ce rapport a été naturellement financé par l'Union européenne. Et je vous laisse imaginer le gloubi-boulga de cette prétendue enquête sur les associations qui osent dénoncer les revendications progressistes. Et quant à la prétendue richesse de nos associations, que ce soit le syndicat de la famille ou une autre association conservatrice, nous ne touchons pas, au contraire des autres, une seule subvention d'aucune collectivité publique, mairie, département, région ou ministère, je vous laisse imaginer. Ainsi, contrairement au planning familial et à toutes les associations LGBT, woke et féministes, le syndicat de la famille, par exemple, ne peut agir que grâce à ses adhérents et sympathisants. Notre capacité dépend entièrement de leur générosité et j'en profite pour les remercier ici. Mais écoutez la suite des propos de la députée. Alors que le financement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle disparaît et que les dotations au planning familial s'écroulent, nos droits brûlent et vous regardez ailleurs, dit-elle à Aurore Berger. On ne compte aucune protection pour les plannings ni aucun budget pour leur permettre de lutter à armes égales avec les conservateurs donc. Quand allez-vous réagir, assurer leur protection? Imaginez-vous cela, leurs droits brûlent.
C'est larmoyant.
L'IVG a été inscrit dans la Constitution, mais soi-disant leurs droits brûlent. Et les VARS seraient en danger par manque de financement, on croit rêver. Et alors que justement le programme EVARS a été intégré à la scolarité depuis septembre dernier. Heureusement pour elles, le ridicule ne tue pas. Mais tout cela n'est pas drôle, car trop de nos politiques et médias croit à ces mensonges et cède systématiquement.
Alors qu'a répondu Aurore Berger à ces plaintes de la députée écologiste?
Alors elle a d'abord répondu que, je cite, « les antidroits et les antichoix n'ont jamais désarmé dans notre pays ». Alors là, j'avoue, ce constat me réjouit et j'en suis heureuse et fière pour la France. Bravo à tous ceux qui, en effet, ne désarment pas pour défendre la vie, la famille, l'intérêt supérieur de l'enfant, la dignité humaine, la liberté de conscience, que ce soit en soutenant financièrement ces combats ou en s'engageant dans l'action. Mais Aurore Berger, poursuit donc. Il continue à taguer, à menacer, à intimider, à financer et à tenter de désorienter les jeunes femmes qui souhaiteraient tout simplement avoir accès à leur liberté. Effrayant les pauvres, je comprends qu'ils aient très très peur de nous. Nous menaçons, soi-disant, nous intimidons si seulement, et nous aidons des jeunes femmes. De quoi avoir très peur en effet. Et Aurore Berger complète. Face à cela, nous agissons d'abord en protégeant les lieux. Je suis en contact très régulier avec la présidente du planning familial pour cela, et notamment à Strasbourg, qui a été particulièrement ciblée à plusieurs reprises. Je m'y étais justement rendue pour témoigner du soutien du gouvernement et de l'État. Eh bien, dites-moi, si elle se déplace pour un tag, je n'ose imaginer son emploi du temps, vu tous les murs tagués de France. Et je comprends le budget transport du gouvernement, voire la dette publique. Mais pourtant, curieusement, quand on saccage nos lieux de conférence, comme à Paris, à Toulouse, à Lyon, elle ne vient pas ni ne donne signe de vie. Ensuite, ajoute Aurore Berger, les moyens alloués aux associations ont plus que triplé, ont plus que triplé en 10 ans. Et dans le budget pour 2026 que nous avons présenté, le soutien de l'État aux associations continue d'augmenter.
Sandra Rigol a donc raconté n'importe quoi.
Oui, en effet, elle a imaginé, inventé. Cela étant dit, je la comprends, ça marche. Et je note aussi que cela ne la gêne pas du tout d'être, malgré tout, prise en flagrant délit de mensonge, en tout cas pour ceux qui décryptent. Et elle a même conclu sa petite intervention en disant « Vous les laissez agir, c'est de la non-assistance à droits en danger ». Alors pour ma part, je voudrais vous dire la vérité vraie. Cette semaine, le Collège de France a interdit dans ses murs la tenue du colloque qui y était prévu le 22 juin sur le thème « L'enfant cible des idéologies ». Et Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, s'est désistée de sa venue. Pourquoi ? Parce qu'il est organisé par deux psychanalystes, Céline Masson et Caroline Eliachef, qui alertent sur les dangers du prosélytisme transactiviste auprès des jeunes. Autre exemple, en ce qui me concerne, depuis des années, je donne des conférences en France, et que ce soit à Brest, Tours, Clermont, Toulouse, Amiens ou encore Marseille, les militants des associations progressistes, woke LGBT féministes, souvent avec l'aide de la presse locale, organisent des manifestations contre ma venue, quitte même à démolir les entrées de salles pour les rendre inaccessibles. Et à Marseille, outre la presse locale et ses activistes, ce sont même des adjoints au maire qui ont dénoncé ma venue et sont venus manifester. Quant à imaginer donner une conférence dans une université française, ça n'a jamais été annulé pour ce qui me concerne, mais parce qu'il n'était même pas imaginable d'essayer. Seul l'ICES à La Roche-sur-Yon m'a accueilli, sans peur et sans reproche, et je les en remercie encore. Mais rappelez-vous aussi de Marguerite Stern, dont le lieu de conférence à Lyon a été saccagé. Et je pense aussi aux Nuits du Bien Commun qui ont été chahutées au point que leurs organisateurs ont dû arrêter d'organiser ces soirées d'appel à dons. Elles étaient pourtant au service des plus démunis, des malades, des enfants, de l'éducation, etc.
La députée parlait de peur à cause des tags, mais vous-même, vous êtes vous déjà senti en danger?
Oui, mais pas à cause de tags, à cause de menaces de mort et de tentatives d'agression. Et nous sommes nombreux à le vivre, et parfois des années durant. Mais pour en revenir à la situation de la France, ces incroyables mensonges, cette comédie, constituent une gigantesque manipulation qui n'a que trop duré et qui est néfaste pour notre pays puisque les politiques se soumettent la plupart du temps. Il nous faudra donc aussi penser à cet aspect de la vie politique française lorsque nous aurons à voter lors de prochaines échéances électorales. En effet, nous ne pouvons plus avoir pour dirigeants des politiques terrorisées par des menteurs.
Merci beaucoup Ludovic de la Rochère pour cette chronique piquante et quelque peu théâtrale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on vous dit à la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, je laisse le micro à nouveau à Richard de Sèze qui reçoit Nicolas Delange. Richard de Sèze, c'est à vous.
Merci beaucoup Alexandre, et effectivement nous recevons avec plaisir Nicolas Delange qui vient de faire et d'écrire un très bon ouvrage Découvrons-nous Gaulois qui est édité et qu'on peut se procurer comment, juste en Nicolas Delange
voilà sur Amazon pour l'instant, il sera sur Book on Demand bientôt et voilà. Bonjour chers auditeurs tout d'abord.
Voilà. Alors pourquoi Découvrons-nous Gaulois? C'est un livre qui est joyeux et un peu surprenant, où vous nous dites en fait, on a méprisé les Gaulois, en tout cas comme ceux qui sont férus d'histoire romaine, ce sont les vainqueurs qui ont écrit cette histoire-là, on est en train de se retrouver Gaulois parce qu'on a l'impression d'être dans un petit réduit, et en fait il faut avoir un vrai mythe gaulois, il faut ressusciter le mythe gaulois, mais un mythe complètement revivifié, complètement redessiné.
Oui, il s'est passé un événement absolument extraordinaire ces quelques 20 dernières années. L'archéologie a complètement révolutionné sa manière de considérer les Gaulois. Ça a été le fait de nouveaux moyens de datation, de moyens de microscopes électroniques, d'un travail sur l'ADN, mais aussi et surtout grâce à l'archéologie préventive. Tout d'un coup, la France est devenue un immense chantier archéologique et on a commencé à déstabiliser nos perception sur les Gaulois, et petit à petit on arrive à la découverte d'une civilisation qui est absolument extraordinaire, absolument étonnante, qui nous ressemble d'ailleurs beaucoup plus que celle que nous avons décrite pendant presque 2000 ans, et cette grande civilisation aujourd'hui nous apparaît avec ses caractères, avec ses valeurs, avec ses richesses, et c'est un peu comme si nous retrouvions, et c'est même plus que ça, c'est mieux que si nous retrouvions l'Atlantide, ou que si tout d'un coup nous percions le secret des pyramides.
Parce qu'effectivement, on a les Gaulois, pour nous, c'est soit Astérix, soit Vercingétorix, avec ses brais, poitrail velu et avec des bacchantes. Et en fait, vous nous dites que Poséidonios d'Apamée, donc l'historien grec, nous parle des Gaulois. Ils se servent de tuniques teintes ornées de motifs floraux de toutes les couleurs et de pantalons. Ils agrafent sur leurs épaules des saillons rayés en étoffes velues pour l'hiver et lisses pour l'été, divisés en petits carreaux serrés et en multiples fleurs. On a l'impression d'une civilisation extrêmement avancée, maîtrisant de nombreux arts et pas du tout d'un peuple sauvage qui passe sa vie à boire de la cervoise tout en coursant les sangliers à la course.
Alors certainement, c'est pour parler de l'élégance dont vous venez d'évoquer l'un des plus beaux traits du monde gaulois, c'est véritablement les inventeurs de la haute couture. C'est ce que dit Jean-Louis Bruno, qui est directeur de recherche au CNRS. Et les Gaulois, eh bien, ont inventé la manière de bien s'habiller avec apparat, avec beaucoup d'or, avec des tissus extrêmement raffinés, extrêmement complexes, extrêmement sophistiqués dans la réalisation, avec un soin du détail, avec des couleurs. Il faut s'imaginer que si vous alliez à Rome en l'an 400 avant Jésus-Christ, parce que là nous parlons des Gaulois à leur apogée, peut-être en l'an 400, 300 avant Jésus-Christ, si vous alliez à Rome, Rome est une bourgade qui est principalement en bois, et vous verriez des Romains habillés en beige, avec probablement un liseré de pourpre sur leur toge, mais ces toges et la chlamyde grecque n'est jamais que un bout de tissu rectangulaire bien arrangé pour faire un beau pli. Bien entendu, il y a un art de la porter avec une fibule peut-être pour l'attacher, mais chez les Grecs, c'est la chlamyde qui est merveilleuse sur des représentations en pierre au Louvre, n'est jamais qu'un rectangle de tissu. Au même moment, les Gaulois inventent le pantalon. Ils inventent l'équivalent de la chemise, des manteaux à capuche, des vêtements extrêmement sophistiqués, extrêmement pratiques aussi, et surtout extrêmement raffinés. Et on dit même qu'il n'y a pas de pauvres en haillons en Gaule. C'est très étonnant. Alors, s'il n'y a pas de pauvres en haillons, s'ils ont des vêtements qui frappent l'admiration, mais alors c'est qu'il s'agit peut-être d'une civilisation qui a une économie florissante et des valeurs peut-être de partage. Alors, on va découvrir, au-delà de l'élégance des Gaulois, qui se manifeste par la qualité de leurs vêtements, la sophistication, mais aussi par la présence de l'or. On en a parlé aussi, j'en ai parlé tout à l'heure à l'instant, la Gaule, c'est le pays où l'or abonde. C'est comme ça qu'on l'a décrit. On a trouvé un torque à Vix, et ce torque fait 480 grammes d'or pur, massif. Et donc c'est un pays qui a une valeur de l'apparat qui est très importante. Et cet apparat, cette manière d'être dans l'élégance, elle se retrouve aussi dans le langage. C'est un pays où on a le sens de la formule. C'est un pays très littéraire. C'est pas seulement un pays métaphysique avec une caste d'intellectuels florissante et la plus importante en effectif, mais aussi la plus structurée, la plus organisée. Je parle de la caste des druides. C'est aussi un pays qui a une élégance dans le langage. Ils ont laissé quelques merveilleuses sentences, quelques merveilleuses répliques, on se souvient du malheur au vaincu, mais aussi peut-être de la réponse de ce général, plutôt c'est pas forcément un général, c'était plutôt un député gaulois à Alexandre qui interpelle ce gaulois et qui lui dit mais alors vous avez de quoi avez-vous peur, vous n'avez peur de rien, et puis sa réponse est très très subtile, il dit nous n'avons peur de rien hormis de vous offenser et de vous être d'une présence désagréable et bien sûr aussi que le ciel nous tombe sur la tête. C'était une licence, on va dire, diplomatique pour ne pas heurter Alexandre. Bien sûr qu'ils ne croyaient pas que le ciel allait leur tomber sur la tête, et surtout, ils ne croyaient pas que dans le ciel, il y avait les dieux. Et donc, on a affaire vraiment à un peuple d'une très grande civilisation, d'un très haut niveau d'achèvement.
Nicolas Delange, je me permets de vous interrompre, parce qu'on sent que s'il s'agit de chanter les merveilles des Gaulois, vous êtes capable de tenir de nombreuses minutes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, et vous l'avez rappelé tout au début, c'est que voilà, il y a l'historiographie est complètement renouvelée depuis 20 ans. Voilà, on redécouvre les Gaulois. On a enlevé, si j'ose dire, à la fois la cape d'invisibilité que les conquérants romains avaient jetée sur ce peuple, mais aussi la manière dont le 19e siècle avait ressuscité une figure particulière du Gaulois en oubliant les aspects les plus civilisés pour ne valoriser que le guerrier. À juste titre, les Gaulois sont un peuple guerrier, vous me le disiez tout à l'heure. On les retrouve dans tous les conflits méditerranéens. On sait que ce sont des Gaulois, des mercenaires gaulois qui ont été envoyés partout sur tous les champs de bataille. Ce qu'il y a de plus intéressant dans votre « Découvrons-nous Gaulois », le mythe fondateur du peuple français, c'est la nécessité qui vous paraît aujourd'hui de ressusciter Smith et qui est presque une contre-culture parce que, vous le dites, les élites souvent n'ont pas voulu de ce mythe gaulois. Il a été réactivé en 14-18. Voilà, avec ce mythe du guerrier, et très vite, en fait, à peine la guerre finie, on l'a remis sous le boisseau. Pourquoi est-ce que l'élite républicaine française ne veut pas du Gaulois comme figure tutélaire ?
Alors, c'est une question, très intéressante, parce qu'elle touche à l'âme de la France, elle touche à notre caractère et peut-être à notre manière millénaire de concevoir la relation à l'autorité. Alors, il faut se demander pourquoi cette manière que je développe dans le livre, eh bien, s'est développée en France, peut-être avec un peu plus de couleur, avec une spécificité un peu originale. Il y a eu cette tension entre le peuple et les élites, et c'est vrai que les élites, le système militaire n'a jamais favorisé un mythe fondateur pour autre chose qu'elles-mêmes. Elles se sont fabriquées un mythe autour des Germains, aimant les peuples du Nord, un mythe autour des Troyens aussi, et puis les Gaulois ont été cachés sous le menton. Il ne fallait surtout pas que le peuple soit renforcé par un mythe fondateur, parce qu'un mythe fondateur bien crée beaucoup de choses psychologiquement dans un système humain, dans un groupe, que ce soit dans une entreprise, quand le chef d'entreprise rappelle le mythe fondateur de la fondation de entreprise, ou dans le sport, ou dans tous les domaines où la réussite est en jeu. Rappeler un mythe fondateur, c'est renforcer l'unité du groupe, c'est renforcer chacune des composantes du groupe, et on n'a pas eu forcément envie de renforcer le peuple, de le valoriser, de lui donner un sentiment d'appartenance fort. Et il y a eu un moment, en revanche, où ça a été très important. On a demandé au peuple de se sacrifier au péril de sa vie. Et à ce moment-là, c'était 1914, et on a ressorti les Gaulois. Et pour la première fois de l'histoire, on a donné aux Gaulois une valeur positive. Alors, on n'avait pas encore découvert le niveau intellectuel des Gaulois, le niveau d'élégance, le niveau de sophistication militaire, mais on valorisait leur vaillance à résister toujours et encore à l'envahisseur. Et à ce moment-là est né pour la première fois un élément positif sur les Gaulois. Les Gaulois avaient été déjà utilisés au moment de la Révolution française, mais c'était pas vraiment positif. C'était une instrumentation qui était intéressante, négative, c'est-à-dire, mais qui servait à dire finalement, regardez comment la civilisation a transformé des rustres barbares grâce à la romanité. Eh bien, voyez comment la République va transformer ces anciens sujets du roi qui ont eu le cerveau lavé par une église pendant près de 1000 ans et puis qui ont eu une monarchie qui les a aliénés. Eh bien, grâce à la République, on va transformer les Français. C'est une manière de préparer les esprits à l'accueil des nouvelles idées et puis du nouveau pouvoir. Et donc, on a eu un rejet de ces Gaulois de cette manière-là. Et on a retrouvé tout à fait récemment, à travers le travail des archéologues, la grandeur des Gaulois, qui se traduit par peut-être quelques cinq ou six grands domaines. D'abord, le domaine de l'élégance, de l'apparat, c'est-à-dire ce qu'ils sont, ce qu'on voit quand on les croise et quand on les entend. Aussi, dans le domaine militaire, où on a beaucoup dit qu'ils étaient de piètres militaires, assez peu résistants, finalement, faisant la guerre et puis vite quittant le champ de bataille. Non, c'était justement l'une de leurs très grandes et leurs plus nobles valeurs. Ça n'était pas des impérialistes. Ils ne faisaient pas la guerre pour s'accaparer des terres qui ne leur appartenait pas, ils faisaient des expéditions militaires pour les autres ou pour eux-mêmes et ayant collectionné leur riche butin, ils rentraient au pays parce qu'ils étaient très attachés à leurs terres et ils n'avaient en rien l'envie de conquérir les terres des autres. Ils avaient une conception de la terre qui était très très moderne, et donc on a eu une vision politique qui est différente chez les Gaulois, une vision nouvelle quant à leur génie, leur talent de l'invention. Les Gaulois, on a presque presque envie de dire qu'ils ont tout inventé. Si vous prenez juste le domaine du transport, ils ont poussé le char à un niveau d'accomplissement qui sera celui qui va durer pendant plus de 1000 ans. La roue gauloise est celle qu'on retrouve encore sur les champs de course aujourd'hui, la forme de la roue gauloise, la manière de faire un essieu, c'est les Gaulois qui ont donné cette forme définitive.
Il faut dire que voilà, ce n'est pas juste l'enthousiasme qui vous porte, c'est une fois plus, c'est l'archéologie. Et d'ailleurs, les Romains eux-mêmes, régulièrement, disent que tiens, bah, on a adopté telle pièce d'équipement militaire chez les Gaulois, on leur a pris telle invention effectivement dans en matière de transport routier et sur roue. Il y a une reconnaissance qui à l'époque n'est pas du tout en termes d'affrontement de civilisation.
Bien sûr, non, c'est simplement des peuples qui vivent les uns à côté des autres et puis qui s'influencent, qui se donnent des inventions. La côte de maille est une invention gauloise. Le casque à paragnatide, c'est-à-dire avec ses protège-joues, c'est encore une invention gauloise. Le glaive est une invention gauloise.
Le glaive court,
mais qui est devenu ensuite l'épée longue chez les Gaulois, pendant que les Romains gardaient un glaive assez court, qui était d'origine gauloise. Et donc l'équipement militaire jusqu'au Galliquet, les chaussures à triple semelle sont des chaussures gauloises, mais aussi des choses très importantes comme le fer à cheval. Un fer à cheval, c'est ce qui permet à un cheval d'abord d'avoir plus de puissance sur les routes, mais aussi de ne pas user ses sabots et de ne pas se blesser, ce qui provoquait l'immobilisation des chevaux. Et donc, les armées romaines arrivent en Gaule avec des hipposandales, ce sont des espèces de fixations qu'on met sous le sabot en les attachant avec des lacets de cuir, c'est un peu compliqué et c'est pas très fiable, surtout quand tout ça est mouillé dans la boue. Et puis les Gaulois, quand les Romains repartent à Rome, les armées de César sont toutes équipées de chevaux ferrés. Et donc, les routes romaines n'ont pas été un apport du tout des Romains. Elles existaient bel et bien, elles étaient déjà très efficaces. Un chariot d'étain va de Rouen à Marseille en 30 jours. Si vous faites le calcul, ça veut dire que finalement, la seule chose qui limite la vitesse de ce chariot, c'est finalement la fatigue du cheval. Et c'est ni la route, c'est ni le chariot lui-même, et ni les hommes, et finalement un cheval qui traîne un chariot lourd d'étain, après 30 km, il a fait sa journée. Et donc on a une civilisation de l'invention, du génie de l'invention, le savon est
Alors, une fois plus, je me permets de vous couper, parce que vous avez raison, nous avons tout inventé. Ce qu'il y a d'agréable aujourd'hui, en 2026, avec votre livre « Découvrons-nous Gaulois », c'est justement vous dites, en fait, il faut se réapproprier ce que nous sommes. Nous sommes un peuple inventif, nous sommes un peuple guerrier, nous sommes un peuple élégant, nous sommes un peuple littéraire, nous sommes un peuple avec des intellectuels, mais aussi nous ne sommes pas un peuple prédateur. En fait, les empires, c'est Rome et ensuite les descendants de Rome, comme par exemple les empires anglo-saxons, mais fondamentalement, les Gaulois et ensuite la France n'est pas un peuple qui tient absolument à sortir en permanence de ses frontières pour aller expliquer aux autres comment vivre. Enfin, évidemment, je mets un peu de côté la parenthèse napoléonienne, mais qui n'a pas eu le succès qu'escomptait Napoléon et qui, d'une certaine manière, est contraire au génie français.
Alors, c'est un peuple, le monde gaulois est un peuple sage. Qui d'ailleurs est tout en haut de la pyramide de pouvoir, cette caste des druides. Et un druide, c'est pas seulement un haut fonctionnaire, un chercheur, un mathématicien, un astronome, c'est d'abord un sage et on compte sur sa sagesse. Donc les Gaulois sont un peuple sage qui s'autolimite, qui vit sur sa terre et qui a une espèce de sagesse de l'organisation politique, retrouver les siens dans son espace à lui. Il s'interdit la ville, il se donne des interdits pour que ça ne déraille pas. On s'interdit la construction en pierre, on s'interdit l'écriture, on s'interdit même le vin, alors qu'ils étaient d'immenses consommateurs, mais on s'interdit de faire la culture de la vigne. Donc c'est un peuple très organisé. Si on veut vraiment comprendre comment ils sont, ce que c'est que peut-être la politique gauloise, il faudrait aller voir du côté de John Locke, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va devenir
dites-nous plutôt comment réactiver ce mythe en fait.
Alors, avec joie. Donc ça c'est très important. C'est très important. Je pense que pendant un petit moment, il va falloir, c'est juste pédagogique, que nous disions un peu du mal des Romains, que nous les fassions descendre du piédestal sur lequel nous les avons très injustement mis, que nous arrêtions peut-être d'aller toujours nous chercher des origines ailleurs qu'en nous-mêmes, ce qui est une forme de lâcheté vis-à-vis de soi, mais non, nous, oui, il y a eu des influences germaines, des Romains, grecs, mais nous sommes des Gaulois, les Gaulois c'est 4 millions de personnes qu'en Rome, quand tout l'État romain c'est à peine 200 000 personnes au 4e siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est la Chine de l'Europe, et ces Gaulois sont des gens qui sont ce que nous sommes. Alors je fais un parallèle entre eux et nous pour montrer qu'il y a bien une filiation civilisationnelle. Et ce qui est très important, comment le faire ? Eh bien d'abord, enthousiasme. Peut-être un peu moins bien parler des Romains, arrêter sans arrêt de louer la grandeur des armées romaines quand les Romains ont été incapables de mettre un pied vers le nord alors qu'ils étaient 2000 km à l'ouest et 2000 km à l'est et qu'ils étaient incapables de monter vers le nord parce que tout simplement la puissance des Gaulois leur en interdisait l'accès et que ça leur serait pas venu l'idée d'aller... éliminer leur armée vers le nord. Et donc, premièrement, être fier de ce que nous avons été, travailler à découvrir ce que les Gaulois étaient. C'est pour ça que j'ai produit cet ouvrage. C'est parce que je m'apercevais que chez les universitaires, eh bien, il était encore difficile pour eux de rester, de trop s'affranchir des doxas du 19e siècle. Et donc, s'informer, découvrir ce que sont les Gaulois, ce livre nous y invite et surtout en être fiers.
Voilà, découvrons les Gaulois.
Découvrons-nous Gaulois.
Découvrons-nous Gaulois, le mythe fondateur du peuple français. Il suffit de taper Nicolas Delange et Gaulois et vous pourrez l'acquérir. Merci beaucoup Nicolas Delange.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette chronique de l'Orient simplifié, je reçois ce matin François-Xavier Jiquel. François-Xavier Jiquel, je rappelle que vous êtes, c'est quoi votre titre exact d'ailleurs ? Directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient.
Absolument.
Je m'en rappelle, c'est juste que je ne l'ai pas sous les yeux. Mais enfin, merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, vous vouliez revenir sur deux séquences diplomatiques majeures au Proche-Orient. D'un côté, des discussions entre les États-Unis et l'Iran. De l'autre, des contacts directs, historiques, entre le Liban et Israël. Mais vous dites qu'il ne faut surtout pas confondre retour des négociations et retour de la paix.
Oui, parce qu'il faut toujours se méfier du mot de paix, ce sera mon introduction et ma conclusion, surtout lorsqu'il arrive au milieu des ruines. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont bien deux séquences diplomatiques importantes, mais dans les deux cas, la diplomatie revient après le désastre. Et dans le cas américain, il faut le dire clairement, cette guerre apparaît de plus en plus comme une catastrophe stratégique pour Washington.
Alors pourquoi parler d'une catastrophe stratégique américaine ?
Alors parce que les États-Unis reviennent de négocier sur des sujets qui étaient déjà, pour l'essentiel, sur la table avant la guerre. Le premier, c'est le nucléaire iranien, alors même que les discussions semblaient proches d'aboutir avant l'escalade. Et le second, c'est le détroit d'Ormuz. Donc, il faut rappeler une évidence quand même, le détroit n'était pas fermé avant la guerre. Autrement dit, Washington a contribué à déclencher un embrasement régional pour revenir ensuite à la table des négociations sur des objectifs qui existaient déjà avant le conflit.
Et vous ajoutez que même le ton américain a changé.
Oui, c'est très révélateur. Donald Trump a lui-même expliqué au début de cette séquence que les revendications iraniennes n'étaient pas déraisonnables finalement. Ça veut dire qu'après les bombardements, après les menaces, après les discours martiaux, Washington revient finalement à des bases de discussion qui reprennent en partie les termes iraniens. Et surtout, l'Iran ne négocie pas en position d'effondrement. Il négocie avec ses propres hommes, ses propres structures, ses propres lignes rouges.
Donc l'idée d'un changement de régime vous paraît largement démentie par les faits.
Oui, alors le pouvoir iranien a été secoué, mais il n'a pas été renversé. Ali Khamenei a été remplacé par son fils Mourtaza Khamenei, mais cela ressemble davantage à une recomposition interne qu'à une chute du régime. Et l'homme qui mène les négociations, Mohammad Ghalibaf, n'est pas un opposant, c'est un pur produit du régime, un ancien commandant des gardiens de la Révolution. Autrement dit, après avoir parlé de rupture historique, Washington se retrouve à discuter avec les mêmes appareils et les mêmes hommes.
Et même le cessez-le-feu américano-iranien n'a pas réellement pacifié la région.
Ah, exactement, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu le 7 avril, mais dès le lendemain, Israël mène au Liban l'une de ses journées de bombardement les plus meurtrières. Ça montre immédiatement les limites de cette trêve. Dans l'esprit de Téhéran, une vraie désescalade devait inclure aussi le Liban et la fin des hostilités contre le Hezbollah. Dans l'esprit d'Israël, absolument pas. Là encore, ça révèle la faiblesse de la séquence américaine. Washington annonce l'apaisement, mais son principal allié régional poursuit la guerre sur un autre front.
C'est justement dans ce contexte qu'ont commencé les négociations directes entre le Liban et Israël, que vous qualifiez malgré tout d'historique.
Oui, il faut tenir les deux choses ensemble. C'est historique, mais ça ne suffit pas à autoriser l'enthousiasme. Le fait que des représentants libanais et israéliens se rencontrent directement à ce niveau est un enjeu majeur, ce que nous observons évidemment avec attention chez SOS Chrétien d'Orient, mais nous attendons des résultats concrets avant de nous en réjouir.
Pourquoi cette prudence ?
Alors pour trois raisons. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas encore d'une paix, mais d'un processus à peine engagé. Rappelons que l'armée israélienne continue à demander l'évacuation de zones entières du pays, et même étend ses opérations. En effet, après avoir demandé aux civils de quitter toute la zone au sud du fleuve Litani, 30 km au nord de la frontière avec Israël actuelle, c'est depuis hier jusqu'au fleuve Zahrani, encore plus au nord, que Tsahal compte désormais interdire l'accès à la population libanaise. Ensuite, parce que tout dépendra des termes exacts d'un éventuel accord. La souveraineté territoriale du Liban sera-t-elle réellement restaurée dans son intégralité, ou bien s'agira-t-il d'un arrangement imposé sous contrainte ? Et enfin, parce qu'aucun accord ne ramènera les 2000 morts, ne guérira le traumatisme des 1,5 million de déplacés, je le rappelle, entre un cinquième et un quart du pays, ni ne réparera à lui seul les destructions colossales infligées à un pays déjà en faillite.
Et cela, vous dites que vous ne le regardez pas de loin ?
Alors non, chez SOS Chrétien d'Orient, chaque jour, nous sommes auprès des déplacés. Presque chaque semaine, nous organisons un convoi pour venir en aide aux communautés chrétiennes du sud Liban qui subissent les combats. Nous sommes témoins de cette horreur. Nous voyons des familles arrachées à leurs maisons, des villages vidés, des existences suspendues dans la peur et l'épuisement. C'est aussi pour ça que nous refusons une lecture trop abstraite de cette guerre. Derrière les négociations, il y a une souffrance humaine immense, durable et parfois irréparable.
Au fond, ce que vous dites, c'est que la diplomatie arrive trop tard pour effacer la guerre.
Ah oui, c'est exactement ça. Dans le dossier iranien, la diplomatie tardive ressemble à l'aveu d'un échec américain. On a parlé de force, de changement de régime, de victoire. On revient finalement discuter avec les mêmes hommes sur des sujets déjà négociables avant la guerre, 15 000 morts plus tard. Dans le dossier libanais, la diplomatie ouvre peut-être une possibilité réelle, et il faut le prendre au sérieux. Mais pour l'instant, nous ne constatons aucune réalité militaire sur le terrain, et surtout, elle arrive dans les décombres d'un pays saigné à blanc. Alors oui, il faut observer ces discussions avec attention, oui, il faut espérer des accords justes, mais il faut refuser le triomphalisme, parce qu'une paix digne de ce nom ne se mesure pas seulement à l'ouverture d'une négociation, elle se mesure à ce qu'elle protège, à ce qu'elle répare et à ce qu'elle rend possible. Comme le rappelait le Concile Vatican II, donc Gaudium et Spes, la paix n'est pas une pure absence de guerre, elle est une œuvre de justice.
Merci François-Xavier Jiquel. Tout de suite, on passe à la revue de presse de Gilles Brochard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre, bonjour Arnaud. Chers auditeurs, le dernier numéro de la revue Omerta est disponible sur son site et dans son éditorial intitulé « Iran, la guerre de trop », Régis Le Sommier revient sur les déclarations de Donald Trump quelques jours avant sa réélection à la Maison-Blanche. « Nous avons dépensé 9 000 milliards de dollars à bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que cela nous a rapporté ?» Rien, disait-il. Ainsi, le président des États-Unis visait le prix Nobel de la paix, un caprice de gosse, écrit Régis Le Sommier. Tout commença plutôt bien en début de mandat, mais, écrit encore le patron d'Omerta, il faut dire que lorsqu'on s'installe dans le bureau ovale, on a devant soi une institution militaire dotée d'un budget de 1 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de 30 nations qui suivent. L'hyperpuissance a de quoi donner le tournis. Alors, par deux fois, il a failli succomber. La première, c'était en juin 2025, lorsqu'il intervint en Iran pour frapper les sites nucléaires. Mais le lendemain, il dissuadait Israël d'aller plus loin et signer un cessez-le-feu. Et puis, il y eut l'enlèvement de Nicolas Maduro, une opération commando, précise Régis Le Sommier, rondement menée, qui ne fit aucune perte américaine et permit à Trump de le ramener à New York pour l'inculper d'association avec les cartels de la drogue. Alors reste la question, quelles étaient les motivations réelles qui auront conduit Donald Trump à briser net sa promesse de non-intervention à 8 mois des élections de mi-mandat ? Et Régis Le Sommier conclut que le régime iranien l'attendait de pied ferme et au moment où il proclame sa victoire, espérant sortir du piège dans lequel il s'est enfermé et qui est en train de ruiner l'économie mondiale, les missiles balistiques iraniens continuent de pleuvoir sur Tel Aviv et sur tous les pays du Golfe qui avaient accueilli des bases américaines. Jamais Donald Trump n'avait imaginé un tel scénario. Alors, en dernier recours, il a fait rentrer en scène son vice-président, J.D. Vance. Hostile à l'intervention, ce dernier aura pour tâche de rattraper une aventure militaire bien mal engagée. Trump joue sa présidence sur l'Iran. Alors, toujours dans le magazine Omerta, je vous invite à lire le dossier sur la Moldavie, petit pays de 2,5 millions, situé entre l'Ukraine et la Roumanie, indépendant depuis 1991 à la suite de la dissolution de l'Union soviétique. Et certains souhaitent aujourd'hui intégrer l'Union européenne et d'autres insistent sur la nécessité de préserver un équilibre avec la Russie et l'espace post-soviétique auquel le pays reste historiquement, économiquement et culturellement lié. Et parmi les enjeux qui entrent en ligne de compte, écrit Nicolas Tachy, membre du cercle Aristote, il faut compter avec l'accès aux routes commerciales reliant l'Europe orientale au bassin de la mer Noire. Et cette région constitue en effet un espace crucial pour le commerce maritime et pour les corridors énergétiques reliant les zones de production d'hydrocarbures de l'Eurasie aux marchés européens. On lira aussi l'article du politologue Pierre-Yves Rougeron qui met l'accent sur une des régions de Moldavie, la Transnistrie, indépendante de fait depuis 1992, mais pas de droit. Elle reste une région moldave où stationnent 1500 soldats russes et pourtant cette zone possède des traits matériels de souveraineté, usines d'armement, centrales hydroélectriques, un potentiel accès à Odessa et à la mer Noire. Et comme l'écrit l'auteur de l'article, les Russes n'ont rien contre le fait que ces populations puissent recevoir des subsides de la part des Occidentaux tant que ces minorités ne font pas l'objet de menaces sur leur intégrité physique ou culturelle et que leurs territoires ne peuvent servir au déploiement de forces militaires hostiles à la Fédération de Russie. Et puis enfin, je vous invite à lire l'entretien donné par Thierry Mariani, recueilli par Jérôme Fouché, très critique sur la politique menée par l'Union européenne. Il dénonce l'ingérence d'Emmanuel Macron dans la politique de la Moldavie, mais aussi celle de Madame von der Leyen. Bref, il démontre toute cette politique de la part de Bruxelles pour que la Moldavie intègre l'UE et demain peut-être l'OTAN. On joue avec le feu sur le flanc oriental de l'Europe, dit-il, dans un contexte où la guerre fait rage en Ukraine. Et pour lui, ce qui se construit autour aujourd'hui au sein de l'UE est une centralisation du pouvoir politique entre les mains de la Commission, organe non élu, non révocable et qui pond de la législation au kilomètre au détriment des parlements nationaux et des États membres. Voilà, c'est à lire dans le magazine Omerta. Mais aujourd'hui, le magazine Marianne publie un grand entretien avec Sylvain Tesson mené par Frédéric Taddeï. À l'occasion, je vous en avais déjà parlé, de la parution chez Gallimard de son livre écrit en collaboration avec Régis Debray, Le grimpeur et le grognard. Alors quand Taddeï lui assène qu'il est de droite parce qu'il n'aime pas la Révolution française, ce qui fonde la droite à l'origine, dit-il, il répond « La Révolution est un changement de propriétaire, un passe-passe. Au nom du bien commun, au toit de là que je m'y mette. Il y a une division entre la gauche et la droite, spirituelle, cosmique, le rapport au temps. Moi, je ne crois pas en l'avenir. L'avenir est un projet annulé, disait la blague soviétique. » Et quand il lui fait remarquer, quand Taddeï lui fait remarquer qu'il ne croit pas non plus que l'homme est perfectible, Tesson répond « La perfectibilité du genre humain, le progrès, tous ces babas à la crème, poids. Je suis du côté de Cocteau. Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. » Ou de Monterland, « Tout ce qui est atteint est détruit. » C'est une phrase de grimpeur. Comment se convaincre que demain sera mieux? Ils ne voient pas leur décrépitude dans la glace, les partisans de l'avenir. Paul Morand disait « Ailleurs est un mot plus beau que demain. C'est la géographie contre l'histoire. » Et puis on le sait, Tesson est un être indépendant, libre, qui trace sa voie dans la conquête de l'impossible. Alors on n'est pas étonné quand il clame haut et fort dans cet entretien « Je m'intéresse davantage à l'individu qu'au groupe, à la nature humaine qu'à l'organisation de masse. Dans le peuple, ce que j'aime, c'est un tel. Je me garde de la théorie, j'analyse, je contemple, je ne théorise pas. Ensemble, disent les politiques, tellement horrible, mon système, me garder de tout système. » Alors quand Sylvain Tesson est allé au Népal, à Lumbini, lieu de naissance du Bouddha, il en a tiré une éthique de vie. D'abord, s'attaquer à son domaine personnel, vivre l'empire sur soi. Et quand à 20 ans, il part faire le tour du monde à vélo avec un copain, il a vu la misère humaine, économique et morale, et il en a tiré la conclusion. J'ai vu que l'universel humain, c'est la violence, la médiocrité. Ça m'a rendu observateur, donc pessimiste. Et plus loin, il dira, Quand je vois un clocher, je me sens un peu chez moi, même si je ne crois à rien d'autre qu'à l'asticot après la mort. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée.
Zone libre.
Merci Gilles Brochat et François-Xavier Jiquel, vous nous avez fait l'insigne honneur de rester avec nous ce matin. Il y avait un sujet qu'on voulait aborder un petit peu rapidement, c'était les relations entre Trump et le pape qui se sont particulièrement durcies. Alors vous, comment est-ce que vous avez vu ça ces derniers jours ?
Écoutez, je pense que c'est quelque chose à suivre depuis longtemps, puisque en 2016 déjà, Donald Trump s'était pris le bec avec le pape François, d'abord sur des questions d'immigration, ensuite sur des questions d'écologie, ensuite sur la peine de mort, puisque le pape François était le pape qui est revenu sur la position du Vatican sur la peine de mort, et désormais bah, encore sur un nouveau paradigme, puisque Donald Trump s'en prend au nouveau pape sur un nouveau sujet, à savoir sur la question de la guerre, en niant au pape à la fois le droit de parler sur des questions qui ne sont pas strictement liées à la religion, donc en l'uniant totalement son droit de s'exprimer sur des questions de politique ou géopolitique internationale ou même de morale, et à la fois en disant, comme si c'était un simple politicien, qu'il était faible sur la guerre, faible sur la criminalité, puisqu'il parle aussi de l'intervention au Venezuela. Mmh. Et donc c'est une attaque frontale qui se poursuit à la fois par la bouche de Trump, mais de ses proches. Et donc c'est vraiment une attaque contre les catholiques et le catholicisme.
Mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'à la limite, la première étape de l'attaque de Trump, c'est une attaque diplomatique. Mais il y a eu deux autres bourdes, disons, volontaires d'ailleurs, qui ont eu lieu ces derniers jours. D'abord, aussi une sorte d'image générée par IA qui a généré un très fort tollé chez les catholiques du monde entier, et les catholiques américains en particulier.
Et chez les chiites iraniens qui étaient parmi les premiers à réagir justement à l'attaque contre Jésus qui est un prophète dans leur religion. Et en effet, pour l'instant, grand tollé chez les catholiques américains qui représentent 50% des catholiques américains à peu près votent parti républicain. Mmh. On parle de dizaines de millions de personnes, donc c'est quand même 60 millions, il me semble, que Trump vient de perdre, en tout cas de se mettre à dos. Et j'attends de voir ce que ça va donner chez les protestants également, parce que tout le monde parle de cette attaque contre une attaque contre la religion catholique, parce que juste avant il avait commis un message dont il a la teneur contre le pape. Mmh. Et ensuite il a posté cette image totalement blasphématoire.
Oui, ou
sur
alors
Jésus.
On voit pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, on voit Donald Trump représenté en Jésus qui effectivement serait entouré de sortes de légions d'anges autour de lui et qui viendrait guérir les malades comme une sorte de dieu thaumaturge, et ça
c'est
évidemment
ça.
C'est un blasphème.
Donc c'est un blasphème, et pas contre la religion catholique, mais contre la religion chrétienne dans son intégralité. Mmh. Donc, en effet, les catholiques sont braqués, puisque ça a été fait à la suite d'attaques contre le pape, mais allons voir ce que maintenant ça va donner sur l'intégralité de l'électorat chrétien de Trump, et on sait que les catholiques sont un électorat qui est encore opposé, en tout cas qui a des intérêts et des vues différents, de l'électorat protestant, évangélique, conservateur américain.
Ne serait-ce que sur la question israélienne, où par exemple, voilà. Eh bien, les évangéliques vont être plus favorables à l'interventionnisme trumpiste, là où par exemple les catholiques sont plutôt, les catholiques républicains sont plus America First, plus isolationnistes aussi.
Oui. C'est sûrement pour ça que Donald Trump a retiré cette image, disant qu'il avait mal compris les choses et qu'il pensait être représenté en secouriste de la Croix-Rouge. Donc depuis, sur Internet, les blagues ne s'arrêtent plus, les images humoristiques appelées mèmes ne s'arrêtent plus sur le sujet, tout le monde se moque de lui et de son imbécilité. Donc on a à la fois l'attaque contre la religion catholique et le Vatican, contre le Christ, donc on élargit encore les frontières.
Et la dernière attaque qui vient de Jed Evans hier, donc ce vice-président américain, qui a expliqué quand même, lors d'une diatribe contre la géopolitique vaticane, que le pape devrait moins se mêler des questions de théologie.
Bien sûr, et la messe de Pâques qui avait été semi-interdite au Pentagone le jour de Pâques, la messe catholique.
À la Maison Blanche.
Seul le culte protestant avait été accepté. Et on sait d'ailleurs que le grand mentor du secrétaire d'État à la Défense est un pasteur qui demande l'interdiction des processions catholiques dans les rues américaines et au maximum possible de limiter les honneurs rendus à la Vierge sur le territoire américain, qui serait, d'après lui, une sorte de blasphème catholique envers la religion chrétienne dans son ensemble.
Oui. Non, mais puis je reviens pour conclure sur les 30 secondes qui nous restent sur effectivement Jed Evans qui alors est un catholique pour le coup, lui qui quand même l'a toujours revendiqué, est toujours a été finalement l'image du catholicisme américain de droite ces dernières années, et qui là quand même va expliquer dans une sorte de confusion des genres un petit peu absurde que le pape devrait moins se mêler de théologie, ce qui est sans doute presque de l'hérésie à ce niveau-là, quoi, d'expliquer ça, c'est du protestantisme absolu. Donc voilà, tout ça pour dire que sans doute que évidemment les trumpistes se sont, le camp Trump s'est mis à dos une bonne partie des catholiques, ce qui leur sera sans doute préjudiciable pour les midterms d'octobre de novembre prochain. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Nous devons vous dire quelque chose tout de même, c'est que ça n'est pas terminé, il faut que vous restiez 30 secondes d'écouter Arnaud.
Oui, écoutez-moi bien et merci de m'écouter surtout. Nous avons besoin de votre soutien financier pour pérenniser ce beau projet qui est Radio Courtoisie et qui perdure depuis bientôt 40 ans. Pour ce faire, faites-nous des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr et puis adressez vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Merci. On rappellera jamais à quel point c'est important. Merci Arnaud. Et puis tout de suite, on écoute Raphaël Emma qui nous parle des 500 000 migrants régularisés par la gauche espagnole. C'est du génie.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous recevons Raphaël Emma, porte-parole de Télésoun et du mouvement Justice pour les Nôtres. Raphaël Emma, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de l'Espagne, un pays que vous connaissez particulièrement bien. Espagne dans laquelle Pedro Sanchez, le Premier ministre, a pris une décision qui est tout de même assez étonnante d'une certaine façon. Régulariser 500 000 clandestins, 500 000 sans-papiers. Comment expliquer cette décision qui est tellement à rebours de la tendance générale en Europe, une régularisation aussi massive ?
Tout à fait. Alors, pour commencer un petit peu cette chronique, au risque de vous faire mal aux oreilles, j'aimerais bien vous citer Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Or, en effet, le gouvernement socialiste espagnol, qui est en place depuis 2019, avec d'ailleurs un certain nombre de magouilles politiques et d'alliances avec des forces indépendantistes, séparatistes qui ont été pas mal pointées du doigt, a annoncé en janvier de cette année qu'il allait régulariser presque un demi-million de sans-papiers en Espagne, un demi-million de sans-papiers en Espagne, dont la seule condition de régularisation était de justifier d'une résidence d'au moins 5 mois sur le territoire espagnol depuis avant décembre de l'année dernière. Donc, non content d'annoncer ce plan de régularisation, le gouvernement socialiste espagnol a fait passer ce plan par ce qu'on appelle un décret royal. Donc, le décret royal, c'est prévu dans le droit constitutionnel espagnol. C'est un peu, si on voulait comparer en France, un espèce de 49-3. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de s'épargner le vote du Parlement. Donc, ça peut prêter à sourire de voir que les socialistes espagnols en font appel au pouvoir royal pour mettre en place donc leur fou projet migratoire. Et donc, ce plan de régularisation de 500 000 sans-papiers, il a été invoqué, comme à chaque fois que une thématique de ce type-là est posée sur la table, avec les éternels arguments soporifiques, économiques de natalité. Alors, l'Espagne, c'est à l'heure actuelle l'une des économies les plus dynamiques de l'Union européenne, c'est la quatrième économie de l'espace européen. Mais le gouvernement socialiste a quand même invoqué cet argument économique, il a aussi invoqué évidemment l'argument de la natalité qui était en berne. Alors, pour appuyer un petit peu son projet, il a fallu que le gouvernement cherche un soutien populaire. Et donc, il y a eu un référendum, pas tout à fait un référendum, mais plutôt une collecte de signatures, de pétitions, un peu comme ce qui permettrait de lancer des référendums d'initiative populaire. Et donc, pour récolter 600 000 signatures pour appuyer ce projet, le gouvernement espagnol a fait appel à des alliés pour le moins étonnants. Alors, déjà, le patronat, un certain nombre d'organisations patronales se sont alignées, qui seraient équivalentes au MEDEF en France, se sont alignées sur les aspirations du gouvernement socialiste espagnol et ont contribué justement à faire circuler cette pétition. Mais vous avez aussi eu, hélas, à mon grand dam, je suis catholique, des officines reliées à l'Église, comme par exemple l'association Caritas. D'ailleurs, l'épiscopat espagnol s'est félicité de la mesure. Donc, c'est l'alliance du curé, du socialiste et du patron pour faire venir un demi-million, enfin, ou du moins régulariser un demi-million de clandestins dans le pays. Alors, moi, ce que m'inspire cette situation, évidemment, bon, on peut l'analyser, on peut s'en inquiéter, puisque l'Espagne étant dans l'espace Schengen, ça va être un défi aussi français. On peut s'inquiéter aussi, d'une certaine manière, du phénomène de fuite en avant, hein, c'est-à-dire que si un plan aussi massif passe, c'est un pied dans la porte qui permettra à l'Espagne, peut-être, toujours sous ce gouvernement socialiste, de poursuivre des politiques de ce type-là. Et enfin, je pense que ça nous interroge un petit peu collectivement sur une absence d'ambition politique de nos élites cosmopolites. En ce sens que quand nos élites remplacistes voient un enjeu d'économie ou un enjeu de natalité, au lieu de mener des politiques de réindustrialisation ou de natalité, précisément, elles préfèrent trouver la solution magique de la régularisation massive. Régularisation massive, politique absolument suicidaire, qui se fait évidemment au détriment de quelque chose qui est impalpable, qui ne peut pas se compter en termes de points de croissance ou de PIB, qui est tout simplement l'avenir d'un peuple et d'un pays.
En l'occurrence, Raphaël Emma, simplement, un point qui est important de souligner, c'est que parmi ces 500 000 clandestins, la plupart viendraient d'Amérique du Sud. Et justement, à ce sujet, la droite espagnole, jusqu'à Vox d'ailleurs, est assez divisée sur la distinction à opérer entre les migrants d'Amérique du Sud et les migrants, quelque part, qui viennent plutôt du Maghreb ou d'Afrique.
Je me permets de faire un peu un aparté sur ça parce que c'est une question qui est intéressante et d'autant plus depuis le point de vue français où on n'est pas forcément habitué à l'immigration sud-américaine et qu'on pourrait peut-être penser parfois moins problématique que l'immigration subsaharienne ou maghrébine. Effectivement, l'immigration sud-américaine peut avoir un peu plus de proximité culturelle avec l'Europe. En revanche, elle peut être, comme toute forme d'immigration, y compris intra-européenne, dans certaines proportions, tout aussi problématiques. Vous avez aujourd'hui des quartiers de Madrid qui sont connus pour être des quartiers d'immigration sud-américaine et pour être tout simplement plus à l'image de la capitale. Je pense notamment au quartier de Lavapiés. Je pense aussi à des problématiques de crime organisé qui sont attenantes à l'immigration sud-américaine, hein, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de narcotrafics qui se sont exportés en Espagne. Vous avez ce qu'on appelle des bandas latinas qui sont comparables un petit peu aux gangs latino-américains qu'on pourrait trouver en Amérique. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est l'immigration sud-américaine, ça se passerait mieux. Et je me permets aussi de rebondir sur ça, l'Irlande avait annoncé elle-même des plans de régularisation ou d'accueil de réfugiés par un gouvernement d'ailleurs allié à celui du un gouvernement socialiste allié à celui du PSOE espagnol. Les Irlandais avaient été bien surpris de voir que on leur avait promis des régularisations d'Ukrainiens et c'était des Afghans qui étaient arrivés. Donc, que sur le papier, ça concerne l'immigration sud-américaine, nous n'avons pas réellement de gage à cet égard-là. Mmh. Je crois que, en tout cas, la leçon politique sur laquelle on doit se concentrer, c'est que, de toute façon, quelle que soit la nature de cette immigration-là, on ne sacrifie pas une nation pour quelques points de croissance.
Oui, et alors d'une certaine façon, ce qui est assez même surprenant dans toute cette affaire, c'est que le Conseil d'État, lui, donc pour le coup, on connaît la propension au juge français à être favorable à l'immigration. En l'occurrence, même le Conseil d'État espagnol trouvait que Pedro Sanchez allait trop loin et a inclus une clause donc dans le projet de Pedro Sanchez qui était eh bien une absence de casier judiciaire voilà dans la période des 6 derniers mois. Donc enfin c'était quand même une mesure minimale, mais que déjà Pedro Sanchez que Pedro Sanchez a vécu comme une défaite.
Tout à fait, et un petit peu autre chose qui, moi, personnellement, m'a fait sourire quand je préparais cette émission. Vous avez un certain nombre d'ONG qui ont plutôt immigrationnistes, enfin des ONG immigrationnistes, qui elles-mêmes ont alerté sur les difficultés techniques de ce plan de régularisation, parce que vous avez un certain nombre de régularisations qui n'aboutissent pas en Espagne, tout simplement à cause d'irrégularités sur les dossiers, d'irrégularités techniques, d'incapacité à justifier. Donc, même les ONG disaient « Non mais attendez, face à cette proportion, il va falloir bien s'organiser les gars. » Donc, si vous voulez, l'équivalent d'Utopia en Espagne, des assauts immigrationnistes françaises en Espagne, sont elles-mêmes en train de dire « On va avoir une sacrée pile de dossiers à traiter. C'est que vous allez un petit peu loin, en effet.
Autre question un petit peu dans ce dans ce genre un peu de celle qu'on a posée auparavant, mais l'Espagne, ça a toujours été un pays par lequel les migrants traversaient, enfin que les migrants traversaient plutôt pour se rendre finalement en France ou alors dans d'autres pays européens. L'Espagne a longtemps été plutôt une route, raison pour laquelle c'était c'est un pays qui reste quand même plus préservé que la France en termes de grands remplacements. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va se modifier dans les années à venir?
C'est quelque chose qui est déjà en train de se modifier. Alors, je vous le dis à la fois d'observation politique, mais aussi un peu d'observation empirique. Je ne cache pas le fait que je voyage assez régulièrement en Espagne. Aujourd'hui, vous avez des villes en Espagne qui n'ont absolument rien à envier à des villes françaises. Moi, je pense notamment à Barcelone. Barcelone, c'est... ça n'a rien à envier à Marseille, hein, et avec tout l'amour que j'ai pour Marseille. Et puis, de façon générale, vous avez aussi des actualités autour de la question de l'immigration qui agite le pays de plus en plus. On oublie peut-être, mais que l'été dernier, vous avez eu des conflits sur fond de questions identitaires dans la ville de Torre Pacheco, des affrontements très violents suite au tabassage par des jeunes issus de l'immigration extra-européenne d'un vieil espagnol. Vous aviez eu des mouvements sociaux identitaires absolument énormes et qui avaient un petit peu transcendé l'actualité politique nationale. Donc, effectivement, aujourd'hui, ensuite, vous avez un certain nombre de travaux. Moi, je pense à une carte qui a été réalisée par la Gazette ES qui permet de cartographier justement l'immigration en Espagne. Vous avez des quartiers où l'immigration est en Espagne et je pousse même un petit peu plus loin. L'Espagne est peut-être un peu plus en avance que nous sur l'immigration en zone rurale.
D'accord.
Parce que l'immigration maghrébine, marocaine essentiellement, a tendance à se concentrer en zone rurale, ces zones rurales espagnoles étant particulièrement dépeuplées. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'Espagne vacía, l'Espagne vide, de ces villages abandonnés pour au profit des trois grandes villes du pays et des grandes villes du pays. Et dans ces villages-là, ça peut rapidement être en situation de remplacement. Donc non, l'Espagne est loin d'être préservée. De toute façon, aucun pays d'Europe ne le sera sur une certaine lignée de temps.
Il nous reste juste une minute, Raphaël Image. Ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est quelles sont les réactions en une minute du PP et du parti Vox.
Alors, le Parti Populaire et Vox s'opposent à l'initiative. En revanche, comme le souligne le gouvernement, le Parti Socialiste, des plans de régularisation de ce type-là, alors pas dans ces proportions, évidemment, mais ont été mis en place par le Parti Populaire. Donc, la droite libérale, le centre-droit est toujours au rendez-vous, mais bon, la prise de position du PP est un peu hypocrite. Et Vox, évidemment, s'y oppose. Ceci dit, voilà, avec les débats que vous citez en interne sur la place que l'on doit accorder à l'immigration sud-américaine dans ce pays, puisque notamment l'immigration sud-américaine a tendance à voter Vox, ce qui du coup pose des questions un petit peu électoralistes. En tout cas, les identitaires espagnols défendent évidemment de ne pas discriminer notre opposition à l'immigration. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Raphaël Emma, pour ce tour de situation. Eh bien, en fait, assez complet, et c'est intéressant de voir ces débats internes avec des immigrations différentes. On voit que finalement, ça mène toujours au même problème à la fin des fins. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit à une prochaine ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin, c'était un plaisir pour moi d'animer cette nouvelle matinale. Mais écoutez, si jamais vous voulez qu'il y en ait d'autres, si jamais vous voulez que tout cela se poursuive éternellement, eh bien nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin de vous, de votre soutien financier. Vous pouvez nous faire des dons en ligne si vous le souhaitez en vous rendant sur cette adresse soutenir.rc.fr et adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud. Et quel est le programme du jour?
Alors vos grands rendez-vous de ce jeudi 16 avril, tout à l'heure à midi, le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin. Le sujet de cette émission: le programme du Rassemblement National est-il social, socialiste ou libéral? À 14h, un document d'archives de Radio Courtoisie, libre journal de chrétienté, dirigé par Guillaume de Tannouarn, le 27 novembre 2025, les saints cachés de la gauche. À 17h, Sansoum Korda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré cette semaine aux séparations et divorces. 17h30 en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Hainaut, à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. 19h30, le bal des facétieux, dirigé le 7 septembre 2023 par Charles-Henri Delois, la franc-maçonnerie Fantasmes et Réalité. Et puis enfin ce soir, à 21h30, en direct, le Libre Journal des Littératures, émission dirigée par Hector Burnouf.
Superbe, merci beaucoup Arnaud, et puis demain on vous donne rendez-vous avec François Bousquet, ce sera Richard de Cesse qui animera cette matinale, mais je serai bien présent pour faire ma chronique blague. Je vous dis donc à demain.
À demain.